Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.
Bonjour et bienvenue dans ce book club du festival à l'école de l'Anthropocène, en public depuis le café Pilot au collège Truffaut dans le premier à Lyon, et en direct ou plus tard en replay sur Radio Anthropocène. Je suis Bérénice Gagne et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui IRL, l'urbaniste Sylvain Grisot. Je dis IRL, in real life, c'est-à-dire en chair et en os pour les boomers, car j'ai rencontré Sylvain Grisot sur les réseaux sociaux et c'est la première fois que nous échangeons en vrai. Bonjour et bienvenue Sylvain Grisot.
Bonjour, c'est vrai, enfin on se voit.
Je vous ai rencontré à la faveur de la newsletter de votre agence de conseil et de recherche urbaine Dixit.net. Une newsletter qui paraît tous les mercredis et qui est une véritable bouffée d'air frais sur les nombreuses initiatives pour faire la ville autrement. Aujourd'hui, Sylvain Grisot, vous venez justement nous parler de votre dernier ouvrage, Redirection urbaine, sur les chantiers de l'adaptation de nos territoires, qui vient de paraître aux éditions Apogée. Merci de passer nous voir à Radio Anthropocène. Si vous le voulez bien, Sylvain Grisot, commençons par vous écouter dans le texte avec la lecture d'un pas si court extrait de votre ouvrage « Redirection urbaine sur les chantiers de l'adaptation de nos territoires ». Gatineau, c'est une ville de 300 000 habitantes et habitants située à l'ouest du Québec en face d'Ottawa, de l'autre côté de la rivière des Outaouais. C'est elle qui déborde par surprise en 2017 et fait 4 000 sinistrés. Dans les mois qui suivent, une tornade détruit ou endommage 2400 logements, trois des cinq pires pluies diluviennes des 100 dernières années s'abattent sur la ville, qui subit aussi des canicules, des épisodes de gel, dégel et de nouvelles inondations en 2019 et 2023. Gatineau est l'image même du territoire sentinelle, qui tente de nous avertir de ce qui va nous arriver par la voix de Maxime Pedneau-Jobin, son maire de 2013 à 2021. J'ai énormément appris, ça nous transforme. En tant qu'élu local, nous devons envoyer deux messages contradictoires en même temps. Nous devons inspirer la force et la confiance pendant les crises, mais en même temps faire preuve d'empathie et avoir de la compréhension pour ce que les gens vivent. J'ai appris à accueillir la souffrance humaine et parfois nous sommes impuissants. Mais le rôle du maire ne s'arrête pas à la fin de la phase aiguë de la crise. Quand les médias sont partis et que les sirènes se taisent enfin, il y a un territoire à reconstruire. Il faut aussi tirer les leçons du choc et se préparer pour la suite. À Gatineau, on ne part pas de rien. Avant les inondations de 2017, la ville avait déjà une culture de sécurité civile, des équipements et une bonne préparation. La catastrophe n'avait pourtant pas été anticipée. Comment se préparer ? Il faut qu'un concept devienne une obsession. La résilience, c'est-à-dire la capacité à s'adapter à n'importe quoi. Il faut penser la ville autrement qu'avec les normes d'aujourd'hui qui n'ont plus de sens avec les changements climatiques. Il faut des outils pour être capable de faire face à des choses qu'on ne pouvait pas imaginer avant, avec par exemple une protection absolue des terres humides dans une ville que l'on doit en partie désasphalter. La résilience ne passe pas uniquement par l'anticipation des catastrophes ou l'adaptation des infrastructures urbaines. Elle nécessite également de construire des liens entre les gens qui sont essentiels en cas de sinistre. On peut faire confiance aux citoyens, ils sont capables de se mobiliser. Pendant les crises, j'ai vu des gens accomplir des miracles pour aider leurs voisins, dépenser de l'argent, prêter des machines à des personnes qu'ils ne connaissaient même pas. Ils sont une force de frappe extraordinaire. Alors, consolider la société civile doit faire partie du projet politique. Sylvain Grisot, votre livre fourmille d'initiatives et d'expérimentations de différents territoires urbains, essentiellement en France, mais aussi au Québec, on l'a entendu, ou aux États-Unis. Vous proposez des exemples concrets, des solutions techniques ou encore administratives, mais la dimension habitante, relationnelle, est première. Selon vous, la résilience du monde urbain repose-t-elle sur ses infrastructures sociales ?
Oui, je pense. Enfin, en tout cas, je reprends le terme de Klinenberg, hein, qui a travaillé sur... Sans doute pas la première canicule, mais le premier moment où quelque part aux États-Unis en 95, on réalise qu'une canicule n'a pas lieu, mais a eu lieu. Et je trouve ça intéressant de voir à quel moment apparaît le choc climatique comme un nouveau problème de santé publique. La canicule est meurtrière, finalement, on le découvre, et puis se pose la question de comment on résiste, comment on résiste à ça. Et on parle souvent des infrastructures lourdes, non, La climatisation, l'isolation, de plus en plus, hein, des infrastructures naturelles, notamment évidemment la canopée, la place de l'arbre, la place du végétal sur la résilience, en tout cas face aux canicules. Et on parle très peu finalement de cette infrastructure sociale, hein, qui est simplement le lien humain, ce qui n'est pas rien parce que ça ne s'invente pas le jour de la crise, ça se crée pendant des décennies avant. Hein, c'est des associations, c'est des réunions de quartier, c'est finalement tous ces temps qui font que le jour où il y a un problème, on connaît le voisin et on peut aller le voir. C'est pas rien parce que on voit bien, hein, les chocs climatiques comme la canicule, mais la pandémie aussi l'a bien démontré. Il y a une inégalité parfaite, hein, aujourd'hui d'exposition des uns et des autres. Inégalité sociale, certes, mais pas que. Il y a aussi cette question d'avoir du lien qui est présent ou pas, au-delà de la pauvreté et au-delà d'une exposition. C'est ce que démontre Klinenberg en comparant à deux quartiers qui finalement ont une sociologie très proche, mais qui ont une histoire très différente, et notamment un quartier qui s'est pas seulement paupérisé, mais qui s'est vidé, où l'espace public a été abandonné au crime, et puis un autre où le tissu social, le tissu commercial est resté actif, vivant, vibrant. Et c'est un quartier qui finalement résiste beaucoup mieux à la canicule, qui, il faut le rappeler, c'est pas que une montée en température, hein, c'est avant tout une crise de l'isolement.
Et effectivement, dans l'ouvrage de Klinenberg, on voit bien que cette inégalité se traduit en une différence extrêmement importante de mortalité. Vous avez une bête noire, Sylvain Grisot, la voiture. Pourquoi tant de haine ?
Non, en fait, c'est la voiture en ville, la bête noire. En fait, c'est pas tant de la haine que le fait qu'on s'est livré, nous, urbanistes, alors au sens le plus large du terme, hein, c'est-à-dire acteurs de la fabrique de la ville, on s'est livré à une forme de paresse. La voiture prend de la place dans la rue, et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et évidemment, ça pose question, ça pose souci. C'est pas ce qu'elle fait le mieux, rouler en ville. C'est pas là-dessus où elle est le plus efficace, et notamment quand il n'y a qu'une personne au volant. Et évidemment, on a un problème spatial, énergétique, matériel associé à la présence de la voiture. Finalement, la haine que j'ai, c'est, je sais pas si c'est une haine ou un regret, ou en tout cas l'envie d'inverser le cours des choses, c'est ce moment où on a délégué le soin à la voiture de dessiner nos territoires. Le moment où on a finalement pensé la spatialisation des fonctions, le dessin de nos villes et de nos territoires, sans se poser la question de la mobilité. Parce qu'il y a toujours la voiture. Désormais, il y a toujours la voiture, parce que tout le monde est équipé, la route est là, l'infrastructure est présente. On peut toujours aller d'un point A à un point B, sans se poser la question de l'infrastructure de transport, sans se poser la question de la proximité, etc. etc. Et finalement, c'est cette grande paresse, hein, qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve évidemment avec un problème d'émissions carbone, etc. Mais on voit bien, on est sur un système de mobilité qui est soumis à une obsolescence rapide. Hein, on n'a pas la capacité simplement d'avoir une nouvelle équation automobile sur laquelle tout le monde aurait sa voiture, serait propriétaire de sa voiture, pourrait aller d'un point A à un point B à des coûts faibles, et le tout de façon décarbonée. En fait, ça ne marche pas. Bon, alors, on peut rêver... rêver d'hydrogène, hein, c'est un gaz hallucinogène, hein, qui fait rêver pas mal de gens. Mais on voit bien que l'équation ne tient pas quand on la regarde sincèrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, ça fait partie des nouveaux risques. La dépendance automobile de nos sociétés fait partie des nouveaux risques, des nouvelles dépendances qui nous mettent à risque. Alors oui, il y a des risques climatiques, oui, on réalise qu'on a un certain nombre de ressources vitales, comme l'eau, qui peuvent venir à manquer, y compris sous des latitudes aussi favorables que les nôtres. Mais il n'y a pas que ça. On a aussi inventé un système de production de la ville qui nous rend dépendants à un certain nombre de secteurs d'activité, notamment la voiture. Donc c'est pas une haine, c'est la prise de conscience tardive, pour moi comme pour d'autres, hein, d'une dépendance fondamentale qui fait que ça remet en cause le dessin de nos villes, l'habitabilité d'un certain nombre de territoires qui sont trop dépendants de la voiture. Hein, et on voit bien qu'il va falloir là-dessus... arbitrer, trouver des bons compromis, bricoler parfois pour trouver des solutions pour maintenir l'habitabilité d'un certain nombre de territoires, parce qu'on ne pourra pas payer une Tesla à chacun.
Alors vous avez publié en 2021 un manifeste pour un urbanisme circulaire. Pouvez-vous nous expliquer ce que vous entendez par urbanisme circulaire ?
Alors c'est l'idée qu'en fait on serait aujourd'hui et plutôt ces 50 dernières années concentrés sur une forme de fabrique de la ville qui serait une forme d'urbanisme linéaire, hein, dans une consommation assez effrénée du sol. Je regarde le sol comme cet espace, hein, qui nous permet de faire la ville, notamment au travers de ces processus d'étalement urbain dont on parle de plus en plus. dont on parlait peu. Alors la première édition est sortie tout début 2020 en fait, hein, donc avant la pandémie, avant la loi climat résilience. Et finalement, on a un processus là-dessus de consommation d'espace, de production d'objets urbains à obsolescence programmée, très standardisé, un peu comme on fait des voitures finalement. On a industrialisé la fabrique de la ville. Et puis derrière, une forme de poubelle bleue, si vous voulez, de la fabrique de la ville, avec des logements vacants, avec des bâtiments tertiaires vides, avec des friches, etc., etc. Un urbanisme linéaire, et finalement l'urbanisme circulaire, c'est tout simplement la transposition des principes de l'économie circulaire à la fabrique de la ville, en se disant qu'on peut trouver la solution à nos besoins, besoin de croissance éventuellement, mais besoin de réponse aux besoins sociaux, etc., etc., dans le périmètre de la ville déjà là. Avant tout dans le bâtiment, hein, dans le bâtiment déjà là, mieux utiliser déjà ce qui est là. On a déjà des mètres carrés, et finalement les mètres carrés déjà construits sont éminemment bas carbone, hein, puisqu'on n'a pas besoin de les construire. Donc mieux utiliser l'existant en intensifiant l'usage des bâtiments, et puis transformer ce qui peut l'être, c'est-à-dire éviter la déconstruction et toutes ces émissions de déchets associés. Et puis la deuxième grande boucle, hein, c'est au travers à la fois de la densification des espaces déjà urbanisés, et puis du recyclage des espaces, donc ces boucles de démolition, reconstruction. Globalement, j'ai strictement rien inventé, hein, avec ça. C'est des pratiques qu'on a. J'ai simplement rendu lisible une forme de nouveau régime de priorité. Plutôt que, par défaut, aller consommer du sol dans la périphérie ou dans des grandes opérations, d'abord regarder le patrimoine bâti et d'ores et déjà notre patrimoine urbain. C'est la ville sur la ville. Hein. Voilà. La question, c'est comment ça devient finalement un acte banal et pas simplement un acte tellement exemplaire qu'on en parle.
Alors vous le dites, l'étalement urbain n'est pas une fatalité et y renoncer n'est pas le signe d'un déclin. Est-ce que la ville stationnaire peut répondre à la crise du logement ? Alors vous reprenez par exemple l'idée promue par Philippe Biwix, Sophie Jantet et Clémence de Selva dans « La ville stationnaire, comment mettre fin à l'étalement urbain ?» Cette idée de convertir les zones commerciales, dont l'obsolescence est programmée avec les changements de nos manières consommées, en zones d'habitation collective. Alors aujourd'hui, on adore donner des petits noms industriels à nos lieux culturels. Est-ce que demain, on habitera dans le lotissement Auchan ou l'immeuble qui habite ?
Alors ça pose plein de questions tout ça. Alors déjà, c'est, je pense que c'est cette question-là, hein, cette question du travail des entrées, moi je rajoute toujours des sorties de ville aussi, hein, qu'on néglige, ça fait partie des moyens d'action alternatifs à l'étalement urbain. Je pense que dans le principe, hein, de la ville stationnaire, il y a beaucoup d'autres choses qui sont sur un autre secteur avec lequel je suis d'ailleurs, je peux être en discussion avec les auteurs avec lesquels j'échange régulièrement. En tout cas, sur cette question de cette fameuse entrée de ville commerciale, hein, aujourd'hui, c'est un peu le nouvel Eldorado. Hein, on a à la fois un programme gouvernemental et puis une mobilisation des acteurs, notamment des acteurs du commerce associés aux acteurs de la promotion, avec des acteurs financiers importants, qui aujourd'hui regardent ces espaces-là comme finalement l'espace qui sera la ville de demain. Une plaque monofonctionnelle qu'on connaît très bien, l'entrée de ville commerciale, qui pourrait, dans certaines conditions, et notamment quand on est dans la proximité des espaces urbains existants, quand on est dans des espaces qui peuvent bénéficier de transports collectifs, qui pourraient bénéficier finalement d'une nouvelle vie, avec du logement, avec des équipements publics, au-delà simplement du commerce. Dans une opération assez complexe, hein, on ne transforme pas comme ça un parking de supermarché, il y a des enjeux très particuliers qui sont liés notamment à l'histoire de la fabrication de ces lieux et les enjeux de maîtrise foncière, qui sont liés à la dynamique commerciale, hein, qui a vécu sa vie propre. On a parlé d'urbanisme commercial, comme on a pu parler aussi de musique militaire, si vous voulez. On ne sait pas trop si c'était de l'urbanisme ou pas. En tout cas, il y a eu des choix qui ont été faits avec des procédures ad hoc. On a traité dans un champ très particulier tout ça. Je pense qu'il y a eu énormément d'erreurs de fait. Je ne suis évidemment pas le seul à le dire. Et notamment parce qu'on a tartiné des entrées de ville, de nouvelles zones commerciales qui ont très bien fonctionné, mais qui ont rendu obsolètes les autres. Et donc, on voit bien, on aurait un quart des zones commerciales en France qui, finalement, seraient au bon endroit, qui pourraient accueillir une forme de mixité, etc. C'est une bonne nouvelle. Hein, c'est une bonne nouvelle au moment où on veut produire des logements, etc. Après, ça pose une question fondamentale. C'est que ces zones commerciales qui sont venues vider les centres-villes de l'activité commerciale, est-ce que demain, elles ont vocation à accueillir, en plus des services publics, en plus du logement ? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a nécessairement vocation à aller finir de vider les centres-villes existants pour faire des nouvelles polarités dans la périphérie ? Écoutez, je ne sais pas, ça dépend. Comme toute question urbaine, c'est une question auquel on répond in situ. Mais c'est une question politique, éminemment démocratique, et c'est en tout cas très certainement une question pour laquelle il ne faut pas attendre des opérateurs privés qui donnent la réponse. Ce n'est pas aux opérateurs et aux propriétaires fonciers de donner cette réponse-là. Donc il y a une question de planification urbaine. Est-ce qu'on doit ou pas générer des polarités secondaires, des modes, des quartiers de vie sur ces secteurs-là? C'est sans doute pertinent dans certains secteurs, c'est sans doute dangereux dans d'autres. Et puis ça pose une autre question. C'est qu'on a une obsolescence générale de ces espaces monofonctionnels, de ces espaces commerciaux, parce qu'on a évidemment la concurrence du e-commerce, parce qu'on a une distance qui fait qu'aujourd'hui prendre sa voiture pour aller dans la zone commerciale devient plus problématique, parce qu'on a aussi des changements de mode de vie, tout simplement. Mais il n'y a pas que le quart de ces zones commerciales qui sont à proximité des centres-villes qui sont obsolètes, c'est toutes les autres. Qu'est-ce qu'on fait des autres? Qu'est-ce qu'on fait des trois quarts qui sont trop loin? Qu'est-ce qu'on fait des trois quarts qui sont mal situés pour bénéficier demain d'un transport collectif? Qu'est-ce qu'on fait des trois quarts des zones commerciales qui finalement ont vocation à devenir des friches? Est-ce que là, faute d'attention des acteurs privés, on va mutualiser les pertes comme on sait très bien le faire en France? Ou est-ce que chacun sera responsable finalement de la gestion des friches, de la renaturation de ces espaces-là? Et on voit bien là-dessus, c'est une fois de plus des vraies questions collectives, sur des espaces dont on sait qu'ils sont amenés à se transformer. Mais on peut ouvrir la discussion à d'autres espaces, par exemple les zones tertiaires aujourd'hui. Les secteurs tertiaires, les secteurs monofonctionnels qu'on a pu implanter de façon assez élégante à proximité des axes routiers, etc., notamment dans les années 80, 90, 2000. On est en train de parler de bâtiments tertiaires qui sont obsolètes techniquement, qui sont aujourd'hui, qui permettent de chauffer les oiseaux et donc qui arrivent en fin de vie, qui vont l'être de façon précoce par un certain nombre d'évolutions réglementaires. On a un certain nombre de contraintes sur ces espaces-là qui très logiquement arrivent. On ne peut pas continuer d'émettre comme ça. On a des efforts de décarbonation qui sont une nécessité. Et puis surtout, il y a une obsolescence en termes d'usage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre le télétravail d'un côté et le souhait de se retrouver à côté des axes de transport en commun, on a l'obsolescence d'un certain nombre de localisations. Donc le bâtiment est obsolète, mais la zone en elle-même peut être obsolète. Et aujourd'hui, on est sur des secteurs que moi j'appelle des bâtiments zombies, des secteurs zombies, c'est-à-dire ils sont morts mais ils ne le savent pas encore, ou en tout cas on ne veut pas trop le voir. Alors il y a quelques étages de vide dans la tour de bureau, mais il y a encore une activité au rez-de-chaussée entre des boîtes de formation, des bureaux qui profitent là de mètres carrés pas chers, etc., etc. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, c'est des bâtiments sur lesquels voilà, on sait que dans bien des cas, il n'y a pas d'économie pour leur faire passer le 21e siècle. Donc là-dessus, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend d'avoir un nouvel effondrement, pour le coup, de ces secteurs-là, ou est-ce qu'au contraire, on est sur une forme de politique publique qui vient anticiper, repérer et avancer? Aujourd'hui, on voit bien qu'on a, y compris dans des secteurs aussi attractifs que l'Île-de-France, une croissance de la vacance dans les bureaux. On va bientôt passer les 5 millions de logements de mètres carrés de bureaux vides, en Île-de-France uniquement. Et pour autant, on a toujours, dans les secteurs les plus privilégiés, une attractivité, une production de bureaux. Donc on a des secteurs urbains qui vivent des cycles d'obsolescence accélérés. La question, c'est comment on développe des politiques publiques, des modes d'action associant le public et le privé, mais en gardant un regard large, un regard à l'échelle territoriale, et puis en laissant faire les choix aux acteurs démocratiques que sont notamment les élus locaux.
Alors dans votre livre, qui est véritablement programmatique, vous identifiez 6 grands chantiers à mener pour l'adaptation de nos territoires: la canopée, le temps, le bâti, l'espace urbain, le foncier et le territoire. On ne va pas avoir le temps de présenter tous ces chantiers, mais arrêtons-nous sur le temps. Vous venez de parler des espaces tertiaires. Quels sont les bénéfices du chrono-aménagement que vous proposez? Et mon correcteur me propose un chrono-ménagement que je trouve pas mal non plus.
Oui, c'est pas mal, on va travailler là-dessus. C'est pas nouveau, parler du temps dans les bâtiments ou dans la ville, tout simplement, la chronotopie, ces réflexions sur les rythmes de vie et donc les usages, et donc la ville vécue. Et c'est ça que ça introduit de façon absolument passionnante. C'est pas nouveau. Ça s'en va et ça revient. Il y a des cycles. On a eu les bureaux des temps, on a eu à la fois des écrits, mais aussi des expérimentations intéressantes. Et voilà. Et là, on est peut-être sans doute dans un nouveau cycle, c'est-à-dire qu'on est en train de réaliser que la première des sobriétés, c'est la sobriété constructive. Et qu'on a finalement entre ces bâtiments vides, mais surtout ces bâtiments peu utilisés, un potentiel absolument énorme. Potentiel énorme pour rajouter de l'usage, pour répondre à des besoins existants, permettre de développer de nouveaux services, mais aussi peut-être pour prendre le temps, hein, tout simplement. Hein. Pas nécessairement en rajouter, hyper densifié. Hein. Donc c'est ce que j'appelle l'intensification des usages dans l'urbanisme circulaire. Comment, à un moment, on se pose la question d'en rajouter, notamment dans des lieux qui ont fort peu d'usage. Par exemple, le bâtiment de bureau, hein, en effet, qui est... Alors, au-delà même du poste de travail qui est questionné aujourd'hui par le télétravail ou autre, on voit bien que, de toute manière, le soir et le week-end, c'est des bâtiments vides, à l'évidence. Une école, hein, un équipement public, c'est aujourd'hui en première ligne de ces questions-là. Les bâtiments publics sont, dans leur grande majorité, peu ouverts parce qu'ils sont monofonctionnels. Ils ont un seul usage, il y a un usage qui a un temps d'usage. Bah, la cour de l'école, c'est quelques minutes par jour, hein, c'est pas tout le week-end. Voilà, est-ce qu'on peut l'ouvrir ? Et on voit bien là-dessus qu'on a plein d'espaces qui sont intéressants. La salle de réunion, le réfectoire des équipements scolaires ou les réfectoires des entreprises, les amphithéâtres d'université, certains les transforment en cinéma le week-end, hein, on voit ça aux Pays-Bas notamment. L'accueil des associations pose de plus en plus de questions, hein. On a une activité associative foisonnante dans certaines métropoles et pour autant on manque de place, mais on manque de place toujours au même moment, c'est-à-dire le soir. Une maison des associations, c'est quelque chose d'assez déprimant en fait, hein. C'est un bâtiment vide toute la journée et qui est par contre bourré le soir, à côté d'une école en général, hein, qui est pleine toute la journée mais qui est vide le soir. Bon. Moi, j'ai un lecteur qui est devenu élu et qui a abandonné un projet de maison des associations. Alors, tragédie, peut-être pas, en fait. Le budget a été reporté sur la réhabilitation d'une école, hein, qui était existante à côté, et en mettant dans le programme le fait de pouvoir partager les espaces communs de l'école. Alors, pas la salle de classe, mais les espaces communs, c'est-à-dire pouvoir avoir une forme d'échange de clés électroniques ou autre, mais dès le programme, penser le partage. Et on voit bien là-dessus que ça demande un peu de matériel, hein, des clés électroniques, une organisation des espaces. Ça demande surtout beaucoup de bonne volonté. Hein. Et la question, derrière la question de l'intensification des usages, c'est malheureusement pas une question technique, malheureusement pas une question assurantielle, malheureusement pas une question juridique. Parce que ces questions techniques ou ces questions d'investissement, on sait les régler, en fait. Non, on est sur des questions de rapport humain, d'envie de prêter, hein, d'envie de partager, etc. Et donc, c'est compliqué. Mais on n'a jamais dit que ce siècle serait facile.
Alors, en matière d'intensification des usages, vous ne vous joignez pas à ceux et celles qui jettent le logement pavillonnaire aux gémonies et vous proposez même de le réhabiliter. Comment ?
Ben, je pense qu'il faut qu'on fasse une distinction très claire entre les problèmes d'hier et les problèmes de demain. Hein, le problème qu'on a aujourd'hui et ce qu'il faut qu'on évite, c'est sans aucun doute la construction de la nouvelle maison dans une périphérie distante, dans un nouveau lotissement, qui va mettre dans un cycle de dépendance économique et dans un cycle de dépendance physique, hein, la voiture, un nouveau ménage qui va s'installer dans ce processus d'acquisition. La nouvelle maison, le nouveau lotissement, c'est ça notre problème. Hein. Est-ce qu'on arrive à proposer des alternatives ? Et il se trouve que l'ancienne maison et l'ancien lotissement, ils présentent plein de potentiels, hein, des potentiels de densification, alors qu'on dit parfois 12, peu importe. Je pense que faut pas négliger l'impact que peut avoir, hein, sur des voisins, notamment l'arrivée simplement d'une nouvelle maison dans un lotissement existant. Donc est-ce que c'est doux ou pas ? Je pense qu'il faut sortir de ça, hein, pour se dire que simplement on est sur des espaces urbains sur lesquels on a, parce qu'il y a trop de place, parce que les maisons aujourd'hui sont dans bien des cas obsolètes d'un point de vue technique, d'un point de vue thermique, il y a moyen de réinventer ces lieux-là, à la fois le bâtiment existant, mais peut-être le jardin, et à la fois de penser parfois de la construction, parfois de la surélévation, et toujours, quelque part, une réinvention des espaces ouverts, que ce soit le jardin ou l'espace public, plus de mobilité douce et plus de jardin. On le voit bien, c'est des métiers de la finesse, hein. C'est des métiers du complexe, et une fois de plus des métiers de la médiation, hein. Aller voir les uns et les autres, donner envie de faire projet chez soi, rendre les choses possibles, aller voir le voisin, dialoguer avec lui, parfois avoir des outils de la puissance publique, hein, et finalement faire de l'aménagement comme on le fait dans les grandes opérations urbaines, mais là dans le tissu le plus fin, hein, qui soit un tissu habité, dans la dentelle finalement, hein. Et c'est un bon exemple de l'essentiel de ces chantiers, hein, qui sont à mener. C'est des travaux dans la finesse, c'est des travaux dans le détail, c'est des travaux qui sont plus dans le gain de l'économie d'échelle, et c'est aussi des nouveaux métiers qui sont des métiers du dialogue.
Et effectivement, plusieurs fois dans votre ouvrage, vous parlez de ces nouveaux métiers et des besoins immenses en formation que nous avons. Quel type de formation avons-nous besoin ?
Alors, j'ai pas fait la liste dans le détail. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, on a des professionnels qui se posent des questions et qui manquent d'outils, hein, qui recherchent des outils pour faire. Comment on fait des modes d'emploi avec une constante, hein, et moi, c'est le travail que j'essaie de documenter toutes les semaines dans la newsletter et puis dans ce bouquin-là. Une forme de constante, c'est-à-dire que quand quelqu'un se pose un problème, a un problème quelque part, ben, il y a toujours un voisin, quelqu'un d'un peu distant, qui a trouvé la solution. Alors, soit il a trouvé la solution au problème, soit souvent il a trouvé comment contourner le problème. Mais ma foi, c'est pas plus inélégant que ça, hein, et pourquoi pas. Et donc, c'est plutôt des enjeux de partage aujourd'hui, des enjeux de partage, de mise en commun, étant entendu aussi que ben, quand on est dans la finesse, l'existant, etc., chacun va devoir trouver un peu sa propre couleur et sa propre solution. Par contre, il y a la capacité de capitaliser, hein, d'apprendre ensemble. Donc là, là-dessus, bah, nous, on fait un bout du boulot. Il y a plein d'acteurs qui, aujourd'hui, avancent là-dessus. Moi, je crois beaucoup, hein, au fait d'en passer par le retour du terrain, le partage sur site, le partage sur le terrain. Aujourd'hui, l'expression qu'on a des professionnels, c'est à la fois le besoin d'avoir des outils, de pouvoir se former, avec une logique un peu autonome aussi. Et on a plein d'outils aujourd'hui, de moyens, et les podcasts en font partie, hein, qui permettent à chacun d'avancer dans son propre métier. Et finalement, c'est pas plus mal pour parler de ces questions techniques. Hein. C'est pas plus mal aussi pour faire émerger des prises de conscience, hein, et pourquoi pas, et ça permet de parler au plus grand nombre, et finalement, pour celui qui veut se former, de se mettre dans des temps interstitiels et d'associer ça avec plein d'autres choses. Et puis, il y a le moment où il y a besoin de rentrer dans un processus. Et je pense que ce processus, il est personnel et assez intime. J'ai essayé d'en témoigner aussi dans le bouquin, en laissant simplement la parole à des gens qui parlent de leur métier. Mais souvent, en parlant de leur métier, ils parlent d'eux-mêmes. Ils parlent de l'évolution de leur pratique, ils parlent de leur prise de conscience, ils parlent de leurs apprentissages, parfois de leurs erreurs. C'est parfois prise de conscience brutale, hein, une forme de révélation, c'est parfois long, c'est parfois dès le berceau ou dès les premières sensations professionnelles ou sensations sur le rapport à la ville, etc. Chacun son parcours. Le fait est que c'est rarement des parcours isolés, des parcours autonomes, indépendants. Voilà. Et nous, on réfléchit à mettre en place des moments qui permettent à la fois aux élus locaux, aux praticiens, aux professionnels privés, publics aussi, et je crois beaucoup à la capacité de dialoguer, hein, de créer des espaces de sécurité psychologique, comme disent les anglo-saxons, hein, des espaces dans lesquels on peut tous dire, y compris nos doutes, y compris ce qu'on a loupé, et même quand on est élu, et même quand on est un grand professionnel connu, etc., etc., des espaces où on se retrouve in situ, à la fois pour entendre des choses, pour voir des choses, mais surtout pour se parler entre nous. Voilà. Donc, c'est l'idée d'avoir des formes de solidarité au travers de cycles dans lesquels on vient se retrouver et quelque part on apprend à se connaître et on partage in situ sur le moment, mais aussi après parce qu'on a créé du lien. Voilà. Donc moi je crois pas mal à des formes de parcours comme ça, qui seraient très ouverts, sans doute complètement hors des salles de réunion habituelles, etc., etc. Enfin bref, tout sauf une journée de formation à Paris, quoi.
La philosophe Corinne Peluchon était à ce micro hier et elle a une question pour vous. Dans votre pratique d'urbaniste, pensez-vous aussi aux animaux, aux pigeons, aux rats, à ces animaux liminaires qui cohabitent avec nous et qu'on a longtemps négligés ? Quelle cohabitation avec les animaux dans la ville ?
Assez peu. Moi, j'ai pris conscience à la lecture, pour le coup, ou à l'écoute de philosophes aussi, de l'importance, non pas du vivant, parce qu'en effet, on en parle, et souvent sous l'angle du végétal, mais du vivant animal. Et donc je rappelle aussi beaucoup que dans cette nécessité de faire de la place au vivant, non pas pour le vivant et pour la biodiversité, mais pour nous, hein, parce que c'est une des conditions du maintien de l'habitabilité, notamment des espaces urbains, perméabilité des sols, canopée, etc. Enfin, je fais pas tout un dessin. Rappelez qu'on n'est pas que sur du végétal, hein, mais qu'il y a aussi l'animal. Et ça va nécessiter pour nous des changements de perspective paysagère, mais aussi une appréhension des modes de vie. On va accueillir peut-être l'écureuil, hein, avec le foisonnement des arbres, mais aussi le rat. Et puis on aura des abeilles, mais aussi des moustiques. Hein. Et donc là-dessus, il va falloir se réhabituer à tout ça. mine de rien, c'est pas rien. On coupe encore des arbres aujourd'hui en France parce que, vous comprenez, ça fait des saloperies sur la carrosserie des voitures. Hein. Donc, on est très, très loin de ces questions-là. Et je pense que c'est une des clés et c'est une des grandes questions. C'est la fin du premier chapitre, justement, sur la canopée. C'est une question et j'en sais rien. C'est comment on accompagne notre changement de regard sur le vivant dans toute sa diversité, hein, comment on réapprend à vivre avec lui. Quand je dis « on », c'est moi aussi.
Alors, à votre tour, demain, j'aurai le plaisir de recevoir à ce micro le géochimiste Jérôme Gaillardet, qui viendra nous parler de son ouvrage « La Terre habitable » ou « L'épopée de la zone critique ». Y a-t-il une question que vous aimeriez lui poser ?
Ben, c'est compliqué, mais moi, j'imagine que son regard est posé sur le sol, hein, notamment, et aujourd'hui, on se pose énormément de questions sur que va devenir ce sol urbain, un sol hétérogène, un sol parfois pollué, finalement un sol qui vient encapsuler toute notre histoire d'occupation. Qu'est-ce qui va devenir ? Et si on laisse tranquille, qu'est-ce qui va advenir et qu'est-ce qu'on va retrouver demain ?
Merci Sylvain Grisot. Je vais maintenant donner la parole au public. Donc on va faire une petite pause musicale et pendant ce temps, vous pouvez réfléchir aux questions que vous brûlez de poser à Sylvain Grisot.
Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.
Première question dans le public.
Merci de prendre ma question. Moi, je voulais vous interroger parce que je trouve que la notion d'urbanisme circulaire est quelque chose qui est assez riche et assez ouvert, notamment sur une problématique qu'on constate, on va dire, d'une certaine manière, surtout si on la compare à d'autres processus de production de l'espace plus spécialisé, on va dire. Si je prends l'exemple, par exemple, de l'industrie, des implantations industrielles, des carrières, des choses qui modifient aussi lourdement, on va dire, notre cadre de vie, et pour lesquelles il y a des tentatives, en tout cas, ça ne marche pas toujours, d'imposer des règles qui pourraient être simplifiées en étant pollueur-payeur. C'est-à-dire que vous polluez, vous utilisez, et donc d'une certaine manière, vous devez intégrer dans vos modèles économiques la restitution, au moins, non peut-être pas dans un état initial, mais dans un état acceptable, et qu'on puisse remettre dans le circuit, le circulaire du dispositif de l'aménagement du territoire. Et ça, on peut observer que ça n'existe quasiment pas en urbanisme et en architecture, par exemple. Si je prends un exemple très concret, vous avez dans les règles d'un PLU qui conditionne l'aménagement possible d'une commune, d'une collectivité, des règles qui définissent voilà, les caractéristiques du bâti, les caractéristiques du terrain qui entoure ce bâti, ainsi de suite. Mais aucune règle, par exemple, on observe qu'il n'y a aucune règle qui fixe la possibilité et les conditions acceptables de réversibilité, que ce soit pour une activité ou que ce soit pour un type de bâtiment. Donc, il y a des outils qui pourraient paraître un peu simples, mais que certains élus ou certains techniciens refusent d'appliquer, tout simplement parce que c'est des contraintes supplémentaires qui risquent de limiter la capacité de développement, d'implantation de logements, ce genre de choses sur leur territoire. Donc on n'impose ni au constructeur, ni à l'aménageur, ni à l'architecte, ni à l'urbaniste de fixer le cadre d'une régulation qui anticiperait la possible réversibilité, si par hasard on se trompe, on le voit bien dans les opérations d'urbanisme, il y a parfois des choses qui sont lourdes de conséquences et dont on ne se rend compte que voilà, même si on s'en rend compte rapidement, c'est déjà trop tard. Et en architecture, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on construit des bâtiments qui eux-mêmes sont d'ailleurs programmés avec une obsolescence programmée, on le sait bien, la plupart du temps, on construit des bâtiments qui sont de moins en moins pérennes, même si on veut faire de l'architecture durable, on construit des bâtiments qui sont de moins en moins pérennes, donc le temps dont vous parliez tout à l'heure. Et donc ces conditions de la réversibilité, ces conditions de l'évolutivité ne font pas objet, même si elles sont pensées par certains architectes ou par certains... Voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau, mais ça n'est pas une condition, comment dire, sine qua non de la constructibilité ou de l'aménagement de la capacité d'aménagement. Donc l'urbanisme, c'est effectivement plus complexe encore qu'une opération d'architecture. Je vais essayer d'aller vite sur la question, excusez-moi. C'est encore bien plus complexe qu'une opération d'architecture. Mais l'ensemble du process qui conduit à l'élaboration de l'aménagement des territoires, dont l'urbanisme évidemment pratiqué par les acteurs qui fabriquent ces aménagements et qui produisent cet urbanisme, il me semble intègre assez peu cette problématique de la réversibilité, ou peut-être même de l'espoir de se dire, ben, on essaye, on peut se tromper, mais si on se trompe, comment on fait pour rétro-pédaler, quoi. Donc, qu'est-ce que vous en pensez ?
J'en parle pas mal dans le bouquin, hein, sur... Enfin, si vous voulez, aujourd'hui, on a deux enjeux, à la fois faire durer ce qu'on fait... Donc attention non plus, alors déjà, à rajouter de la règle, non pas que j'ai peur de la règle, mais qu'à un moment, on voit que l'inflation de la règle nous fait des PLU de 1000 pages, et donc des interprétations de plus en plus, enfin plus la règle est fine. C'est quoi les fondamentaux, hein, et moi, ça me semble vraiment important qu'on se cale les fondamentaux. Construire des choses qui durent ou construire des choses réversibles, hein, et ça, là-dessus, on sait faire, en fait, hein, on sait faire. On sait faire, donc j'en parle dans le bouquin, c'est à la fois théorisé et en pratique, c'est aussi mis en œuvre. C'est cette question d'avoir des formes d'aménagement, je vais reprendre l'image par couche, hein, c'est-à-dire à un moment, comment on a à la fois une trame d'espace public et une trame d'espace privé, on a des structures bâties, on a des aménagements intérieurs, on a des façades, on a des aménagements du mobilier, etc. Autant de couches qui peuvent avoir des rythmes de vie différents. Et ça, on peut le théoriser, on peut le mettre en œuvre. Pour moi, ça me semble surtout important de se dire à quel endroit et sur quels usages on doit être hyper attentif à la réversibilité. Je pense pas, et le retour du terrain montre que tout penser comme étant quelque chose de réversible est en effet quelque chose de problématique. Il vaut mieux penser les choses qui durent. Après, il y a un certain nombre d'usages sur lesquels, par exemple, on sait qu'on va avoir des contextes urbains qui changent. C'est le cas, c'est le cas sur une expérimentation dont je parle à Lyon, un contexte urbain qui n'est pas favorable à l'accueil de logements, le long d'un boulevard qui est extrêmement sonore, mais dont on sait qu'il va se transformer à terme sur quelque chose de beaucoup plus pacifié. Eh ben, le bâtiment qui est construit là, sur des prescriptions publiques, hein, est un bâtiment de bureau qui pourra demain se transformer sans en passer par une démolition, reconstruction en bâtiment de logement. Hein. Et donc se dire qu'il peut y avoir une deuxième vie qui est prévue dans un secteur sur lequel on sait que. Mais il y a un exemple important aussi, c'est typiquement l'équipement voiture pose question à 10, 15, 20 ans, mais le stationnement de nos véhicules pose question. Hein. Donc il y a une vraie difficulté aujourd'hui à imposer la construction, par exemple, de poches de stationnement en sous-sol, alors qu'on sait que demain, il y aura sans doute moins de voitures, en tout cas des voitures beaucoup plus partagées. Et Paris nous montre déjà dans les chiffres, hein, qu'on a une baisse du besoin de stationnement qui est visible. Donc on est en train d'enterrer du carbone, d'enterrer du capital sous nos immeubles, alors qu'on sait que dans un horizon qui est beaucoup plus court que l'espérance de vie du bâtiment, on n'aura plus besoin de ces espaces-là et qu'on ne pourra rien en faire. Donc là, c'est une vraie question. Donc il y a des sujets sur lesquels, à mon avis, des espaces ou des objets, hein, des usages sur lesquels, en effet, hein, cette question de la réversibilité est extrêmement importante.
Merci Sylvain Grisot, merci d'avoir ouvert des chemins de traverse dans la ville cet après-midi sur Radio Anthropocène, comme un écho à ces obliques et ces traçantes des furtifs d'Alain Damasio qu'évoquait hier votre collègue Camille Tabar dans la dernière newsletter de votre agence Dixit.net. J'invite tout le monde à s'y abonner. Quant à nous, on se retrouve demain, vendredi 22 mars à 16h, pour un nouveau book club en direct et en public avec mon invité, le géochimiste Jérôme Gaillardet, autour de son ouvrage « La Terre habitable » ou « L'épopée de la zone critique ». Et maintenant, sur Radio Anthropocène, on s'engage avec Alternatiba, un mouvement citoyen de mobilisation sur le dérèglement climatique. Merci pour votre écoute et bon après-midi à tous et à toutes sur Radio Anthropocène.
Radio Anthropocène, à l'écoute du changement global.